L'araignée par André Theuriet. Avez-vous remarqué en automne, au long des traits déjà mûrs ou parmi les buissons déjà rougis, ces grandes et légères toiles d'araignée, d'un dessin géométrique si parfait et en même temps si artiste, frêles rosaces brodées à ce jour comme de fines dentelles, où la rosée suspend des perles minuscules et qui durent à peine une journée. Ces toiles soyeuses et ajourées, auxquelles les paysans de chez moi donnent le joli nom d'errantelles, sont l'œuvre d'une industrieuse araignée à l'abdomen brun rebondi et décorée d'une croix d'or pâle qui porte l'appellation scientifique d'épère diadème. Cette épère est une travailleuse acharnée et elle a des mœurs originales qui de tout temps ont piqué ma curiosité. Chez les arachnides de cette espèce, la femelle seule joue un rôle intéressant. Seule, elle tisse et besogne de l'aube au soir pour gagner sa vie à la pointe de l'épée. Le mâle est un maigre insecte efflanqué qui passe sa courte existence aéré aux abords des toiles, offrant timidement ses services pour l'œuvre de reproduction et risquant souvent sa peau à ce périlleux métier. Lorsqu'il s'avance maladroitement sur le filet tendu par la maîtresse du logis, il agite avec précaution l'un des fils pour annoncer sa présence et déguerpille au plus vite s'il aperçoit que la laborieuse filandière n'est pas d'humeur à galantiser. Quand, par hasard, la dame est bien disposée et que l'heure du berger a sonné, elle daigne l'accueillir et l'accouplement s'opère sans cérémonie. Ce sont de brefs amours qui ne traînent guère. Dès que l'œuvre de Vénus est accomplie, la belle, pour qui les minutes sont précieuses, regarde son amoureux comme une non-valeur et le met brutalement à la porte. Si au contraire il arrive dans un moment inopportun et s'obstine sottement, malheur à lui, en un clin d'œil, il est appréhendé au corps, roulé dans une gaine de fil et dévoré séance tenante par la dédaigneuse et impitoyable amazone. Il y a 2 ans, j'étais venu de bonne heure sur le littoral et j'habitais une villa située à mi-côte, entre la Turbie et Roquebrune. On touchait à la mi-octobre, et cette année-là avait été propice aux épers diadèmes. Sur tous les chemins, leurs toiles s'étalaient entre les branches des rosiers et les feuilles aiguës des agaves, et je passais de longues heures de flânerie à observer le manège des laborieuses filandières. Un matin, j'ai été parti pédestrement pour déjeuner à Menton, et chemin faisant, près de l'embranchement de la route qui va de Monte-Carlo à Roquebrune, je m'étais arrêté pour examiner une épère surprise en plein travail de tissage. La ragne avait déjà établi l'encadrement polygonal de sa rosace et tendu les fils qui rayonnaient du centre de la toile aux extrémités. Maintenant, très affairée, la tête en bas, l'abdomen en l'air, elle filait les cercles concentriques du réseau et j'admirais avec quelle prestabilité elle étirait son fil, le tendait avec l'une de ses pattes et le soudait solidement à chaque rayon secteur. À ce moment-là, j'entendis un bruit de pas et presque en même temps une voix dit derrière moi « Une brave araignée, monsieur, et qui ne boude pas la besogne !» Je me retournai et me trouvai face à face avec un homme entre 2 âges, grand, maigre, aux yeux bleus, un peu somnolent. De longs favoris poivre et sel encadraient sa figure distinguée, au teint fané et comme fripé. Un ulster entr'ouvert me laissa voir qu'il était encore en tenue de soirée et me fit supposer qu'il avait passé sa nuit à veiller. Il avait des allures de gentleman, mais ses traits tirés, la fanure de son teint, la brûlure de ses paupières et une certaine nervosité fébrile trahissaient une tare intérieure, l'action déprimante de quelques passions invétérées et tenaces. « Oui. » continua l'inconnu en soulevant légèrement son chapeau rond. « Une bestiole vaillante, cette araigne. Elle est patiente, elle ne jette pas bêtement le manche après la cognée. Figurez-vous, monsieur, qu'hier au soir, en partant pour Monte-Carlo. » Il remarqua sans doute le coup d'œil que je jetais sur son habit et sa cravate blanche, car il s'interrompit et ébaucha un pâle sourire. « Cela vous étonne, reprit-il, de me voir en frac à 7 heures matinale. C'est que j'ai passé la nuit là-bas. » D'abord à la grande maison, puis au cercle. Et franchement, j'aurais mieux fait de rentrer chez moi. Je ne m'étais pas trompé. Mon inconnu logeait en son par-dedans la plus tracassière des passions, celle du jeu. Du reste, il avait la verbosité nerveuse des joueurs et cette manie qui les pousse à entretenir le premier venu de leurs veines ou de leurs déveines. « Toute la nuit, poursuivit-il, j'ai eu une guigne noire. Pas un de mes numéros n'est sorti. » Donc, hier, au soir, comme je partais, je suis passé ici, et j'ai vu cette araignée qui se tenait au centre de sa toile intacte. Je ne sais quelle méchante lubie m'a traversé le cerveau. D'un coup de canne, j'ai stupidement déchiré la frêle rosace qui s'étalait au soleil couchant. Ça ne m'a pas porté chance, car ainsi que je vous le disais, j'ai une de ces déveines, un vrai Waterloo, quoi. » Il s'arrêta pour contempler l'insecte affairé à son travail. « Admirable petite bête » s'écria-t-il. « La voilà qui répare intrépidement mes méfaits d'hier. Elle ne se décourage pas. Elle me donne une leçon. Au fait, j'ai bonne envie de faire comme elle et de remettre immédiatement la main à la pâte. Je comptais rentrer d'abord chez moi pour me ravitailler, mais il me faudrait subir les questions, les lamentations de tout mon monde, et de nouveau ça me couperait la veine. J'ai encore quelques louis en poche, et d'ailleurs Charles, le maître d'hôtel du Café de Paris, m'avancera des fonds. Voulez-vous me rendre un service ? » Il tira de sa poche un crayon et une carte, et y griffonna quelques mots, puis se tournant vers moi. « Vous voyez cette villa rose qui se chauffe parmi les citronniers ? C'est ma maison. Soyez assez bon pour monter jusque-là et remettre à mon domestique cette carte de la part du comte Paprocchi. Ça tranquillisera ma femme et je pourrai sans remords retourner à la roulette. Au revoir, monsieur, et merci. Ah, permettez !» Avec un lambeau de vieux journal, il avait fabriqué un cornet, et avant que je pusse me rendre compte de son action, d'un adroit tour de main, il enleva l'araignée du milieu de sa toile et l'inséra dans son cornet qu'il remit soigneusement en poche. « Ce sera, ajouta-t-il, un précieux fétiche. » Là-dessus, il pirouetta sur ses talons, salua et reprit le chemin de Monte Carlo. Il ne me restait plus qu'à m'acquitter de la commission dont il m'avait chargé avec un si singulier sans-façon. Je longeais l'allée des citronniers et je sonnai à la porte de la Villa Rose. Au moment où je remettais la carte du comte Paprocchi au valet de chambre, je vis s'entrebâiller un rideau à une fenêtre du rez-de-chaussée. Un pâle visage inquiet de jeune femme m'apparut un moment. Puis le rideau retomba et je me remis en route pour Menton. Deux jours après, à Monte-Carlo, comme je traversais les parterres qui s'allongent en face de la maison de jeu, je me retrouvais face à face avec le comte Paprocchi. Il descendait les degrés du casino et avait la mine triomphante. M'ayant reconnu, il vint à moi et me tendit la main. « Merci encore, monsieur, » me dit-il. « Vous voyez un homme qui gagne tout ce qu'il veut. J'avais raison de ne pas me décourager, et l'araignée m'a porté chance. Je viens de ponter le maximum sur le zéro, et le zéro est sorti deux fois de suite. Et depuis deux jours, la veine ne cesse pas. Aussi, en souvenir de cette brave araignée, je me suis fait faire une épingle à sa ressemblance. » Il me montra sa cravate, une épingle dont la tête représentait une épaire diadème, puis il me salua et continua sa route en brandissant triomphalement sa canne. Deux ou trois fois encore, je l'aperçus de loin dans les salles de jeu, puis, rappelé brusquement à Paris, je quittai la Turbie avant la fin de la saison. J'y revins l'année d'après, en octobre, et un matin, en suivant la route de Roquebrune, je reconnus la Villa Rose et ses allées de citronniers. Les volets de la maison étaient clos et le jardin avait un air d'abandon. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut, à l'entrée de l'avenue principale, une croix de marbre blanc, toute neuve, ne portant d'autre inscription que deux initiales et une date. J'avisai un cantonnier qui cassait des cailloux sur le bord de la route et lui demandai à quel propos on avait érigé ce monument. « Ça, répondit-il, c'est la sépulture d'un comte qui habitait la villa que vous voyez à main gauche. Un brave homme, monsieur. Il n'avait qu'un défaut, il aimait trop le jeu. Sa tête aussi était un peu dérangée. Figurez-vous qu'il ne pouvait voir une araignée sans la mettre dans sa poche lorsqu'il allait jouer. Il prétendait que ces bêtes-là le faisaient gagner. N'empêche qu'il s'est ruiné à fond. Un matin, avant de rentrer chez lui, il s'est assis là et s'est brûlé tranquillement la cervelle, ne laissant à sa femme et à ses enfants que les yeux pour pleurer. La pauvre dame, elle lui a tout de même fait élever cette croix avant de partir. » Je m'approchai de la croix, le grain neuf du marbre étincelait au soleil, et entre deux des branches, une épaire diadème tissait lentement sa toile. Elle allait et venait avec sécurité. On eût dit qu'elle possédait la secrète intuition de n'avoir plus rien à craindre de cet enragé joueur qui collectionnait des araignées en guise de fétiche. Ainsi s'achève L'araignée par André Theuriet.